Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ici André Péloquin. Comme vous l'aurez remarqué par ce plan rapproché sur moi, si vous nous regardez en direct de Twitch, eh bien, vous aurez remarqué que je suis seul au monde. Et pour les gens qui n'écoutent que la version audio, vous aurez remarqué par le silence et le manque de répliques de mes collègues qui vont un peu partout. Eh bien, je suis seul au monde en effet, et c'est une parfaite tempête. Christine Lemos est en reportage à l'extérieur du pays. On vous en parle très bientôt pour Pass to Start. Et ma collègue Cassie Sharp est absente aujourd'hui. Je m'appelle André Péloquin, chef de section pour Pèse sur Start, et je vais donc animer ce balado hebdomadaire seul. J'ai avisé mes producteurs de chez Cube Radio en leur disant comme, écoutez, cette semaine, je suis tout seul. Est-ce que vous voulez qu'on saute une semaine? Et on dit, oh, non, le podcasting, c'est comme le gym, faut pas sauter, sinon on décroche. Bastien, qui est le producteur qui m'a dit ça, ne sait vraisemblablement pas que je suis recherché dans 6 énergies cardio pour avoir abandonné trop tôt. J'en ai fait pleurer des entraîneurs dans ma vie. Mais écoutez, ça a l'air que le balado. Merci beaucoup. C'est cette salve d'applaudissements qu'on vient d'entendre est une gracieuseté de Philippe, qui est notre réalisateur, qui va d'ailleurs me tenir compagnie tout au long de cet épisode. Philippe, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Je vais faire mon possible.
Merci de m'accompagner dans cette tempête. Et merci à vous en ligne sur Twitch. Je vous le rappelle, pour les gens qui n'écoutent que la version audio, on enregistre en direct sur Twitch tous les mercredis vers 18h30. Alors, comme vous l'aurez deviné, vu que c'est une édition où je suis seul au monde, ça va être assez short and sweet. On va y aller vraiment full actualité. Philippe va me tenir compagnie de temps en temps. C'est une émission qui est diffusée sur Twitch parce qu'on est plus près de l'actualité, parce qu'on veut vos réactions, non seulement tout au long de l'actualité. C'est pour ça qu'on vous invite à nous écouter en direct, puis après ça, télécharger le podcast, si vous voulez bien, mais aussi parce qu'on a des grandes questions, des espèces de tables rondes entre vous et moi à la fin de l'épisode. Et la question de cette semaine, je vous la pose dès maintenant, comme ça, vous pourrez y penser tout au long de cet enregistrement. Ma question cette semaine, je veux savoir quel jeu vidéo vous a fait pleurer et pourquoi. On parle ici pleurer de rage, pleurer de tristesse. Est-ce que vous étiez ému? Est-ce que vous avez ri jusqu'aux larmes? C'est ce qu'on veut savoir. Parlons émotion, s'il vous plaît. C'est l'épisode IMO de la semaine. Trêve de bavardage et on va passer dès maintenant à notre première actualité. Ah, quel doute indicatif. On commence en force avec la PlayStation 5 qui devrait être sur les tablettes pour Noël 2020. Et oui, son nom sera bien la PlayStation 5. On vous en a parlé plus tôt cette semaine. Alors, je vous résume tout ce qu'on savait à date sur la PlayStation 5, outre le fait qu'elle s'en venait, c'est qu'elle serait un peu plus éco-responsable avec un mode économie d'énergie. Tant mieux, l'effet Greta se fait sentir. Mais là, on a un peu plus de détails sur la console en tant que telle. Alors, permettez-moi de vous lire ça. Encore une fois, sans crier gare. Non, je le ferai pas avec la voix sexy, finalement. Je vais y aller avec la voix informative. Mais peut-être que la voix sexy va revenir plus tard. Merci Philippe, qui sait. Alors encore une fois, sans crier gare, Sony a dévoilé ce mardi plusieurs nouveaux détails au sujet de sa prochaine console qui portera officiellement et sans grande surprise le nom de PlayStation 5. Point probablement le plus intérêt de cette vague d'informations, c'est que la PS5 sera disponible pour le temps des fêtes 2020, imitant Microsoft qui fera de même avec sa Project Scarlett. En entrevue avec Wired, le grand patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, et l'architecte en chef de la nouvelle console, Mark Cerny, ne se sont toutefois pas arrêtés là. Après avoir révélé certaines caractéristiques de la PS5 en avril, on a notamment appris qu'elle serait dotée d'un disque SSD qui aurait de la rétrocompatibilité. Je m'excuse, je me suis enfargé. C'est vraiment un long mot, mais sérieusement, ça doit valoir une fortune à Scrabble. C'est incroyable.
Attends, répète-le.
Rétrocompatibilité.
Rétrocompatibilité. Oui, oui. Même moi, je suis pas capable.
Sur Scrabble, là, vous venez de planter quelqu'un là, là-dessus. Là. C'est clair que quelqu'un flippe la table. Puis, oh, je m'en vais d'ici! C'est du théâtre, j'ai fait du bruit. Là. Philippe, pour les gens qui se demandent, c'est mon réalisateur. Alors, c'est lui qui me... ça va être aussi doté d'un lecteur optique. Il va avoir du ray tracing et alouette. La manette va être un peu plus différente, va être un peu plus complexe, mettons, la DualShock 5. On imagine que c'est le nom qu'elle va avoir. Ressemblerait physiquement à sa prédécesseur, mais il va avoir de toutes nouvelles technologies qui va s'appliquer à elle. D'abord, les bonnes vieilles vibrations old school seront remplacées par un retour haptique beaucoup plus précis qui serait inspiré notamment du retour qu'on a quand on tient tenir un Joy-Con de la Nintendo Switch dans sa main. Selon le reporter de Wired, la nouvelle technologie permettrait de ressentir beaucoup plus précisément, par exemple, le changement de revêtement dans un jeu de course ou encore le terrain que parcourt notre personnage dans un jeu d'aventure. Pour les gens qui se demandaient vraiment qu'on passait de l'asphalte à la gravelle là, dans un jeu, ah oh, mon Dieu, j'aimerais vraiment ça que ça vibre pas de la même façon. Et voilà, on vous a écouté. Maintenant, la petite différence entre le grain de la gravelle puis de la route va se faire sentir entre vos doigts. On n'arrête pas le futur, hein? Autre innovation, les gâchettes L2 et R2 de la DualShock 5 seront adaptives. Concrètement, ça veut dire que les créateurs de jeux pourront mettre peu ou pas ou beaucoup de résistance à ces gâchettes-là selon le jeu et les actions à poser. Fait que c'est pas qu'il y ait un jeu que vous appuyez sur L2 et R2 puis impossible de les bouger. Et pour les gens qui n'écoutent que la version audio, oui, je l'avoue, c'est comme ça que je sonne au lit. Excitant, n'est-ce pas? Autre innovation, il sera aussi possible de modifier les tensions selon le type d'arme ou encore de véhicule utilisé dans les jeux et offrir des sensations différentes, toujours au niveau des L2 et R2. Il va aussi avoir, pour les gens qui veulent économiser de l'espace sur leur console PlayStation 5, ben, il va y avoir une fonction qui va vous réjouir. Alors, c'est possible d'installer que des parties de jeu, en fait, selon nos besoins. On pourra, par exemple, choisir d'installer seulement le volet du multijoueur d'un titre ou encore de désinstaller la campagne solo après l'avoir terminée et ne conserver uniquement que les autres modes. Aussi, il y a évidemment des questions qui nous viennent en tête. Ça va être quoi la taille du disque SSD? Combien la console va coûter? Quel look va-t-elle avoir? J'espère vraiment qu'ils vont ramener la police Spider-Man qu'il y avait sur la PlayStation 3. C'était horrible. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est quel jeu va venir avec. Et justement, on a demandé à notre collègue Marc-Antoine Turcotte de faire aller ses antennes et de nous débusquer quels seront les premiers jeux qui pourraient se retrouver sur la PlayStation 5. Et il y a beaucoup de vœux pieux là-dedans, mais il y a quand même des trucs qui reposent sur de la recherche quand même intéressante. On a passé par LinkedIn pour trouver ces nouvelles-là. Plus sérieusement, on s'est basé sur les studios qui engagent en ce moment et essayer d'associer ça à des jeux. On s'entend qu'en ce moment, on l'avoue, c'est de la spéculation. Alors tout d'abord, notre collègue Marc-Antoine croit qu'il va y avoir un nouveau Gran Turismo. Ce n'est plus tellement un secret. Polyphony Digital, le développeur derrière la franchise exclusive de simulation automobile engage massivement à son bureau de Tokyo les postes offerts. Il y a programmeur de jeux de course, programmeur graphique avec des connaissances de tracés lumineux, artiste graphique pour créer des modèles de voitures en 3D et programmeur de moteurs de jeu pour ne nommer que ceux-là. Ça fait vraiment Gran Turismo, mais moi je continue de croire que c'est peut-être un futur King Quest. Puis que tout ce qu'on vient de nous donner, c'est pour vraiment de la poudre aux yeux. Bon, plus sérieusement, Gran Turismo, ça a l'air que ça s'en vient. Il y a Guerrilla Games, à qui l'on doit l'excellentissime Horizon Zero Dawn et la série Killzone, qui recrute aussi en ce moment pour leur studio. Les offres datent d'environ un mois. On cherche notamment un animateur principal pour un monde vivant. On recherche aussi des créateurs de quêtes, des artistes seniors en végétation. Tout indique qu'on pointe vers un nouveau Horizon Zero Dawn. Mais selon notre ami Marc-Antoine, on note que le dernier Killzone Shadowfall est un titre offert au lancement de la PS4 il y a bientôt 6 ans. Bien que sa réception fut plus que positive, on lui reprochait principalement une chose, une campagne déficiente. De son côté, justement, Marc-Antoine, vu que ça fait un petit bail et que Horizon Zero Dawn est encore dans l'imaginaire collectif, eh bien, il croit que ça va être plutôt Killzone auquel on va avoir droit pour la PS5. J'ose espérer que ça va être un nouveau Horizon Zero Dawn. C'était tellement bon. Aussi, un autre jeu qui pourrait se retrouver sur la PS5, God of War 2. On se base encore sur les offres d'emploi. Il y a 47 postes qui sont actuellement offerts au sein de Santa Monica Studios, qui ne s'occupe que d'une seule franchise à quelques collaborations près. God of War, boy! God of War 2 ne sera peut-être pas disponible au lancement de la PS5, mais il est possible qu'il ne se fasse pas trop attendre. Surtout si Sony allonge beaucoup d'argent pour augmenter les effectifs et la vitesse de développement. Là, ici, il y a quelque chose qui est presque assuré qu'on va avoir pour la PS5. C'est bien sûr The Last of Us Part 2. Évidemment, on sait que le jeu va être lancé sous peu pour la PlayStation 4, mais écoute, ça a été un scénario comme on a vu. Là. Le jeu, le premier volet de ce chef-d'œuvre a été lancé sur la PS3 et ensuite a été remasterisé pour la PS4. J'imagine qu'on se dirige vers un scénario semblable pour la PS5. Et je vais même avancer quelque chose. Lorsqu'on a annoncé de Last of Us Part 2, on nous avait dit qu'il y aurait un mode multijoueur. Et depuis quelques semaines, le développeur semble reculer, semble indiquer que le mode histoire de ce jeu-là est tellement prenant qu'on préfère mettre de côté, mettre sur la glace le mode tournois de multijoueurs. Est-ce que c'est vrai, peut-être, que c'est pour calmer le jeu autour de Last of Us Part 2, puis que finalement, quand on va lancer, surprise, on vous mentait, ha, 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 comme nos pères quand ils ont dit qu'ils allaient au dépanneur pour acheter des cigarettes, puis ils sont jamais revenus! Ou peut-être qu'on garde le mode multijoueur pour la PS5. À suivre, qui sait?
Toi, tu dis, mettre ça à glace, c'est comme, il le mettrait pas du tout? Ou c'est comme, il le rajouterait plus tard?
Ben, c'est ça. D'après moi, c'est peut-être rajouté plus tard. Parce que vraiment, on l'avait annoncé au début qu'il y aurait un mode multijoueur. Et lorsqu'il y a eu le dévoilement, après le State of Play de PlayStation, il y avait en même temps un événement sur The Last of Us. Et selon les entrevues qui ont été faites, et j'étais du nombre, les différents artisans de Naughty Dog nous ont dit comme non, finalement, le mode multijoueur, ça va être vraiment un jeu avec un mode histoire et c'est tout. Et vu que c'est ça, il y avait différentes histoires qui ont été lancées après ça, je veux dire, parce qu'il y a plusieurs gamers qui étaient comme, mais voyons, là, je veux dire, on a des articles là, qui datent de quelques mois qui disaient qu'il y avait un mode multijoueur, blablabla, blablabla. Naughty Dog a fait une publication sur les réseaux sociaux, je crois que c'est sur Instagram et Twitter, qui mentionnait justement que, ouais, finalement, écoutez, l'histoire, on veut tellement tout miser sur l'histoire que le mode multijoueur, malheureusement. Et là, on y va avec un vœu de notre collègue Marc-Antoine pour la PS5 qui souhaite que Bethesda sort son nouveau RPG Starfield. C'est un projet qui est interne depuis plus d'une décennie et selon PC Gamer, l'équipe de Bethesda serait en train d'y jouer. Alors, le dévoilement serait imminent selon mon collègue Marc-Antoine. On lui souhaite. Il a l'air d'être vraiment très excité par ce RPG alors que tout le reste de l'univers espère un nouveau Skyrim. Du côté de chez Twitch, évidemment, il y a des inquiétudes qui sont soulevé face à l'apparition de la PS5, Clara Raclette qui nous dit notamment qu'elle va devoir trouver un moyen d'économiser pour se permettre une nouvelle console et que 2020 va être dur. Rappelons que Clara Raclette est étudiante à l'UQAM. Fait que ouais, hein, côté salaire... Je suis désolé, Clara. Il faudra vraiment manger des nouilles ramen pendant un petit bout de temps si tu veux ta console. Et il y a Mr. Whitekey qui me dit « Salut, beau monsieur. » Et moi de répondre « Hello. » Merci beaucoup. All right, écoutez, c'est notre première actualité. On va passer dès maintenant à une prochaine, un dossier un peu moins lourd, mais tout de même sombre. Là, je vais vous dire un mot et il y a la moitié d'entre vous qui allait être excités comme des puces et d'autres qui vont être comme « Ah non, pas encore ». Et voici ce mot « Joker ». En effet, le film qui déchire l'Amérique du Nord en ce moment. Eh bien oui, on a une petite nouvelle sur Joker. Outre le fait, parmi les rumeurs justement, il y a une rumeur grandissante qui veut que Joaquin Phoenix a dit que « Hey, sais-tu, je le ferai une deuxième fois ». Fait que là, il y a plein de monde qui s'emballe sur une suite et qu'est-ce qu'on mettrait dans cette suite-là. Est-ce que le Batman de Robert Pattinson pourrait se retrouver dans cette suite? On l'ignore, ce n'est que rumeur. Et une autre aussi, qui celle-là m'agace encore plus, c'est qu'on vise un film à la même sauce, là, comme drame sombre, sans nécessairement de super-héros pour Lex Luthor. Et selon la rumeur que j'ai lue, on vise une espèce de film à la Citizen Kane un peu tordu, là, en fait, comme un jeune homme qui vient de la pauvreté, qui devient... parce que oui, son poste, au final, va être non seulement président de LexCorp, mais aussi président des États-Unis. C'est déjà arrivé dans la bande dessinée, d'ailleurs. Ben ça serait ce qu'on ferait avec le film. Moi, j'aimerais juste que vous rappelez que la dernière fois qu'on a vu Lex Luthor au cinéma, c'était interprété par Jesse Eisenberg, qui est un acteur que je déteste. Alors, vraiment, j'apprends cette rumeur vraiment et ça m'attriste. Ça m'attriste. Et oui, malheureusement. Mais alors, on va y aller là finalement avec ce que je voulais vous dire. Saviez-vous que Joaquin Phoenix a demandé l'avis de sa famille avant d'accepter le rôle? En effet, l'acteur se doutait que le Joker risquait de soulever la controverse à sa sortie. D'abord réticent à l'idée de jouer dans le film, l'acteur aurait entre autres fait lire le scénario à sa mère et sa sœur afin de leur demander leur avis sur le sujet et incidemment l'aider à faire son choix. Et là ici, je vais vous citer Joaquin Phoenix avec ma voix de Joaquin Phoenix doublée en français. Toute ma famille l'a lu. Ah mon Dieu, Joaquin Phoenix sonne comme Éric Lapointe au final, hein? On va continuer comme ça. Ce n'est pas une pratique anormale, mais nous étions tous ensemble à ce moment-là. Et avant de prendre ma décision, j'ai voulu leur avis. Nous en avons beaucoup discuté et il n'y avait pas de réponse simple. A-t-il expliqué à Wen, qui est un AFP là, finalement, comme une agence de presse, là? Beaucoup de questions ont été posées. Ça nous a fait... beaucoup réfléchir. Finalement, Joaquin Phoenix sonne comme Columbo. Ce qui m'a permis d'anticiper beaucoup de controverses. Autre rumeur que je voulais vous dire aussi à propos du Joker. Il paraît que Jared Leto aurait été troublé et choqué qu'on ne le réinvite pas à jouer le Joker pour ce film solo. On se rappellera qu'il... Mon Dieu. J'ai effacé Suicide Squad de ma mémoire, finalement. Je vais même pas en parler. En tout cas, bref, Jared Leto est choqué qu'on ne lui ait pas redemandé. Faut dire aussi qu'il a déjà gagné un Oscar, là, pourquoi pas, mais mon Dieu, que son interprétation de Joker laissait un mauvais goût dans la bouche. En effet. De retour dans le monde des jeux vidéo. Si vous aimez les gratuités, on en a une sanguignolante pour vous. Est-ce que vous êtes des fans de Mortal Kombat? Eh bien, get over here! On va s'en parler. C'était une référence à Scorpion. Eh bien oui, Scorpion le combattant, et non pas Scorpion le groupe avec un chanteur qui siffle. Ça doit être tellement agréable aux écouteurs en ce moment. Je m'excuse, Philippe. C'est aussi une chanson qui est connue parce qu'on utilise le mot balalaïka, une guitare folklorique russe. Trouvez-moi-en des chansons qui utilisent balalaïka, un autre mot qui vaut cher à Scrabble. Eh bien oui, pour les fans de Mortal Kombat, on pourra jouer à Mortal Kombat 11 gratuitement ce week-end. Si l'envie vous prend d'ajouter un peu de gore à votre fin de semaine, sachez qu'il sera possible d'essayer gratuitement le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One. Oui, les enfants, jouez à Mortal Kombat 11. Alors, c'est ça, du 11 au 14 octobre, on peut jouer à Mortal Kombat gratuitement. Pendant ces 4 jours, on pourra ainsi télécharger sans frais le populaire jeu de combat, de même que les plus récents combattants. Je dis combattants parce que ça vient avec un K, évidemment, pour que ça ait plus d'attitude, incluant le fameux Terminator modèle T-800 de Arnold Schwarzenegger. Je vais vous revenir sur les personnages qui s'ajoutent au jeu dans quelques instants. Tous les personnages et modes de jeu multijoueur seront disponibles. Côté histoire, il y aura seulement les deux premiers chapitres du volet qu'on pourrait essayer. Évidemment, ils veulent pas qu'on finisse le jeu lors de ce week-end-là. Mais, par exemple, pour les chasseurs d'économie, il y a Warner Bros. Qui va profiter de l'occasion pour offrir Mortal Kombat 11 à 40% de rabais sur PS4 et Xbox One. Si vous trouviez le jeu un peu trop cher, ben voilà. Là, écoutez, vous aurez une bonne raison de l'acheter si l'essai vous convient. Pour... Cha-ching, c'était la chronique économique avec André Péloquin. Pour les gens qui se demandent, mais là, avec quel personnage on peut jouer? Ben, comme je vous disais, il y a le T-800 de Terminator. En tout cas, si la voix, c'est parlant de Schwarzenegger, c'est à s'y méprendre. On peut aussi, parmi les combattants annoncés, il y a Shang Tsung et Nightwolf qui ont été ajoutés au Combat Pack, qui est un DLC. Il y a le T-800 d'Arnold Schwarzenegger qui est dans l'arène, en fait, depuis le 8 octobre. Il y a une vidéo, en fait, sur le site PSSR, d'ailleurs, ce qu'on peut le voir en action. Et ma foi, son finish him, son exécution est assez sanguinolente. Merci, c'est hi. Y a Sindel, en fait, qui fera son retour dans l'univers de Mortal Kombat le 26 octobre. Et là, ça commence à être un petit peu plus juteux en juteux Mortal Kombat. Au début de 2020, le 28 janvier, on en parlait, il y a une version du Joker parfaitement coiffée qui sera ajoutée au groupe de combattants. Et finalement, le 17 mars, pour les amateurs de BD, Spawn et sa cape incroyable, à défaut de faire un retour au cinéma, fera un retour dans l'arène, dans un DLC pour Mortal Kombat. Pour les gens qui se demandent, mais là, Spawn, mais c'est... Pour les connaisseurs, vous le savez, c'est pas la première fois. NetherRealm sont des fans de cinéma de genre. Pour le 10e volet de la série Mortal Kombat X, il y avait notamment Leatherface, Jason Voorhees, ainsi qu'un xénomorphe de Alien qu'on pouvait interpréter pour combattre d'autres personnages, comme le dieu du tonnerre, Raiden. Oh oui, ben sur Star, je dois te confier quelque chose. Il est arrivé quelque chose d'incroyable ce week-end. Je me suis réconcilié avec Laval. Et oui, ben sur Start, ton site préféré a pris sa table pliante, son téléviseur et sa boîte Mario Bros en point d'interrogation dans laquelle il cache bonbons et macarons. Et s'est pointé à la première édition du Comic-Con de Laval. Quand même intéressant que ça se déroulait en même temps que les premières projections de Joker. Ça faisait un petit bail que le film était sorti, mais quand même. Et vraiment, c'est vraiment drôle alors qu'il y a plusieurs médias de masse qui sont comme « Ah, Joker va vraiment mener à la création d'une armée d'incels. » Puis pendant ce temps-là, t'as un événement 100% geek, vraiment, qui attire juste des familles là, déguisées en The Flash et Wonder Woman qui ont le fun de leur vie. Alors, le Comic-Con de Laval, c'était la première édition. On nous a dit en coulisses qu'on espérait ameuter 5000 personnes. Il y en a 7000 qui se sont pointées au Centre Sport Expert, parce que c'est le nom de l'endroit, qui était vraiment un endroit très hangar-esque, un peu reculé de tout. Heureusement, la STL avait organisé des navettes, mais c'était peut-être qu'un accès plus près d'une bouche de métro serait plus apprécié la prochaine fois, je dis ça de même. Mais néanmoins, moins, c'était vraiment le fun. Pour avoir parlé à des habitués de l'endroit, dont le chroniqueur geek Jean-Michel Berthiaume, qu'on peut notamment entendre à Radio-Canada et aussi à son propre podcast Pop en Stock, qui lui suit les Comic-Con depuis des années, nous a dit que ça avait vraiment des airs de premier Comic-Con avant que vraiment que ça devienne hyper populaire, qu'il y ait trop de marchands, trop de monde. Et là, quand on parle de Comic-Con, je parle pas nécessairement de ceux de Montréal et compagnie, mais bien les Américains là, qui ont donné un peu naissance à tout ça. Là, le Comic-Con de San Diego, qui est maintenant une plateforme pour des premières. Avant, c'était vraiment comme à Laval, là, vraiment des geeks qui se retrouvaient pour célébrer la culture pop avec quelques vendeurs, quelques vedettes présentes aussi pour aller à la rencontre de leurs fans et tout ça. Il y avait vraiment un petit feeling old school. C'est vraiment agréable. Et Pain sur Start y était pour rencontrer les gens, prendre des photos de cosplay et aussi on faisait tirer un prix, une Nintendo Switch Lite et 100$ sur la boutique Nintendo. Je vous en parle. Un, on est content d'avoir fait tirer ce prix-là. C'est une Madame Lesage qui l'a gagné. D'ailleurs, on la salue si elle est parmi nous. On vous en parle parce qu'on récidive ce week-end. Ce week-end, on envoie notre collègue Christine Lemousse avec rencontrer notre correspondant de Québec, Raphaël. On va avoir un kiosque au Comic-Con de Québec, au Centre des Congrès, les 12 et 13 octobre. Si vous y allez, faites-nous signe à notre kiosque. On a encore le même concours pour y participer. C'est facile, c'est gratuit. Il suffit de remplir un coupon. Aussi, on a un projet, je vous l'annonce en exclusivité, on a un projet vidéo pour les gens qui font de la costumade, du cosplay. Si vous êtes à Québec pour le Comic-Con de Québec, venez encore plus voir notre stand. On a un projet qui devrait, ma foi, vous allumer fois mille.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
C'était la pause percussion et on continue en action avec, pour les fans de John Wick. Le John Wick-verse ne cesse de grandir. Il y a non seulement les trois films où est-ce que la soif de vengeance parce que quelqu'un a magané son chien a poussé Keanu Reeves à commettre des actes assez incroyables. Eh bien là, on apprend qu'il va y avoir non seulement un quatrième volet des aventures de ce tueur intuable, mais aussi une série télé qui s'appelle The Continental. Je ne sais pas si c'est inspiré du déjeuner du même nom, j'espère. Mais il va y avoir aussi un spin-off avec un personnage féminin, une jeune femme assassin. C'est Deadline qui nous rapporte ça. Le film devrait s'appeler Ballerina, comme ballerine finalement. Le film suivra le parcours de la protagoniste alors que cette dernière prendra sa revanche contre un groupe d'individus responsables du meurtre de sa famille. Alors, on a troqué le chien pour une famille. Un choix audacieux, n'est-ce pas? Ben, c'est ça. Par ailleurs, les plus observateurs des fans de John Wick remarqueront que ce personnage-là, ça me dit quoi? En effet, il y avait une jeune ballerine que l'on aperçoit dans le troisième chapitre de John Wick, eh bien, il s'agirait justement du même personnage pour ce nouveau film-là, finalement. Toujours selon Deadline, là, c'est là que les mauvaises nouvelles commencent. Ça va être Len Wiseman qui va réaliser le film, qui va s'appuyer sur un scénario de Shea Aden, qui a notamment planché sur John Wick Parabellum. Pour les gens qui ne savent pas qui est Len Wiseman, on lui doit notamment Live Free or Die Hard, qui est comme un des plus mauvais des Die Hard, et surtout la série Underworld. Ça, c'est la série de... Ouais. Ça, c'est la série de films avec les vampires et les loups-garous qui se courent après, là, vêtus de cuir. Alors, tu sais, quand ils se courent après dans les scènes d'action, tout ce qu'on entend, c'est attention, accessoire. C'est comme un portefeuille qu'on frotte, là.
Hé, reviens ici, mec! Non!
C'était du cuir qu'on frottait ensemble parce que vraiment, on dirait que c'est tout du monde qui sont passés chez Screaming Eagle pour s'habiller avant d'aller combattre les forces des ténèbres. Fait que c'est ça, on a toujours pas de date de parution, évidemment, mais hey, est-ce que ça sent le succès ou l'insuccès, Philippe, d'après toi?
On sait pas.
J'ai aimé ça, ça pourrait être ça, juste la réponse aussi, comme... Ça faisait un peu comme un skidoo, tu peux-tu laisser ça dans ta cour? Ça fait très harmonium et j'en suis très content. On retourne après avoir parlé de la PS5 en début d'émission, on passe maintenant à la PS4. Il y a une mise à jour de prévue cette semaine pour votre console qui se fait de plus en plus vieille. Et voici ce qui se retrouve sur cette mise à jour. La mise à jour 7.00 qui a été en phase bêta cet été proposera de nouvelles fonctions pour les parties. Wouhou! Merci beaucoup. Je savais qu'un jour, on s'en servirait de cette sirène et voilà, le moment est venu. Alors qu'on pouvait faire des parties à 8 utilisateurs, il sera désormais possible d'avoir 16 membres dans notre party. Merci beaucoup. PlayStation déclare également avoir amélioré la qualité sonore du clavardage, ainsi que les connexions qui sont parfois plutôt instables. Aux États-Unis, il sera également possible de recevoir la transcription du chat audio via l'application PS4 Second Screen en anglais. On espère que cette fonction sera éventuellement disponible au Canada avec une option en français. Ainsi, quand un enfant de 8 ans va m'insulter parce que j'ai fait en sorte que son équipe n'a pas gagné au jeu de tir du moment, eh bien, je vais avoir une transcription de toutes les insultes que cet enfant a fait et qui vont m'attrister encore plus. Je suis très sensible et très mauvais au jeu de tir aussi. Ceux qui veulent streamer leur jeu avec leur appareil Android pourront également désormais le faire, tandis que la version iOS est déjà disponible. Il faudra télécharger l'application PS4 Remote Play dans le Google Play Store pour y accéder. Grâce à Bluetooth, il sera possible d'utiliser la manette DualShock 4 avec un appareil Android ou iOS avec les plus récentes mises à jour. Il faudra avoir un appareil compatible. Alors, pour les gens de PS4, vous pouvez maintenant faire le party. On passe à la prochaine nouvelle, en effet. Vous êtes fan du Marvel Cinematic Universe? Eh bien, on a eu un coffret numéroté qui s'en vient qui pourrait vous donner envie de casser votre petit cochon et de faire un bon trou dans votre compte en banque. C'est un coffret qui est offert exclusivement chez Best Buy. Ça s'appelle l'Infinity Sagas Collector's Edition. Regroupera l'ensemble des 23 longs-métrages du MCU en version Blu-ray régulier et Blu-ray 4K Ultra HD, de même qu'un 24e disque de contenu exclusif. Ouh. Pour couronner le tout, l'article en édition, on imagine, assez limitée, inclura aussi une lettre du président de Marvel Studios, Kevin Feige. Oh my God, une lettre, une feuille photocopiée. Nice! Et une jolie lithographie de l'artiste anglais Matt Ferguson. Ça, c'est intéressant. Que l'on retrouve également sur la tranche de chaque boîte seul ombre au tableau. Il faudra débourser. Est-ce que tu t'es renseigné sur cette nouvelle-là, Philippe?
Non. Okay,
génial. Écoute, non. Devine combien ça peut coûter un coffret de même.
Est-ce que j'ai le droit de répondre comme ça encore, une deuxième fois? Ça m'a l'air cher, ça.
Oui, c'est très cher. On salue les fans de ASMR, d'ailleurs, en ce moment. Là. Alors, dis un chiffre. Ah ouais, on joue à The Price is Right. Là.
Oh, ouais. On m'a dit... 200, ballpark, 250$.
730$ canadiens.
Oh, j'étais vraiment off.
549$, 99 US, environ 730$ canadiens pour acquérir le fameux objet. Là, il y a beaucoup de fans qui sont comme, mais là, c'est une édition limitée. Je suis comme, ben oui, ok, d'accord. L'apparition est prévue pour le 15 novembre. Soulignons également que le coffret n'est toujours pas affiché sur le web canadien de Best Buy. Alors, est-ce que ça va être juste une exclusivité aux États-Unis? C'est à suivre. Puis là, bien sûr, il y a un débat là-dessus, là. Sous notre article, il y a des gens qui étaient comme, ben là, après avoir payé tous nos factures, on va voir si je me le procure. Et il y a Jade Michaud qui va de ce commentaire. Si on divise le montant en 24, soit pour chaque disque, ça donne autour de 30$ chaque pour une édition limitée. C'est très raisonnable. Ben, j'imagine si t'es fan de Marvel. J'imagine, mais moi, vraiment, ma première pensée, j'étais comme, mais mon Dieu, ces films-là sont déjà disponibles sur Netflix.
Mais c'est ça. C'est comme, c'est pas mal disponible partout. Fait que pourquoi est-ce que tu voudrais payer 30$ pour un film que tu peux voir n'importe où?
C'est vraiment pour l'objet, là, parce que vraiment, ils vont être sur le service.
Ouais,
de
mais même
aussi,
les éditions limitées, c'est comme... OK, oui, t'as un... un morceau de papier avec une signature dessus. Ça, déjà là...
Pas Robert Downey Jr., du président de Marvel,
le
man!
Le président de Marvel.
Wow!
Déjà là, ça vaut 600$ tout ça.
Ah, incroyable, mais vrai. Alors oui, pour les fans de Marvel, écoutez, essayez-vous, demandez ça à Noël! Avant toutefois de passer au prochain volet, cette nouvelle, Philippe a vraiment ameuté les gens. Il y a Mr. Whitekeat qui nous dit que la lettre du président de Marvel dit « Merci pour l'argent ». C'est ça qui va être écrit. « Merci pour l'argent ». Et une signature de Kevin Feige. Mais c'est ça, il y a un point, par exemple, qu'on peut soulever. Peut-être que toi et moi, Philippe, on est moins attachés à ça, mais il y a des collectionneurs, évidemment. Vu que c'est une édition limitée, peut-être que c'est un investissement aussi. Puis dans quelques années, ça va valoir une petite fortune. J'ai comme un doute, vu que c'est disponible en streaming aussi. Mais sait-on jamais.
Ouais, des pièces de collection, ça vaut quand même pas mal, genre.
Ouais, j'avoue. En tout cas, à suivre. Là, c'est clair qu'ils vont trouver preneur. Là, je veux dire, ils ont fait une étude de marché pour ça. J'ose l'espérer. Alors, on va passer déjà... c'est déjà le dernier volet de notre émission. C'est le volet Twitch. En début d'émission de podcast, je vous le disais, que j'allais vous poser une question rassembleuse. La voici. Quel jeu vidéo vous avez pleuré et pourquoi? On a posé la question hier à nos adeptes Facebook pour annoncer ce sujet-là. On a déjà quelques commentaires. J'ai aussi mon top 3. Tout d'abord, Baptiste Zaffirin qui nous dit que lui, c'est Walking Dead 1 de Telltale. Le duo de personnages est mon duo préféré dans un jeu vidéo. Je me suis complètement identifié à Lee et la mort du jeune Doc dans l'épisode 3 m'a carrément fait chialer. On salue encore les fans de ASMR. Qu'est-ce que Baptiste ajoute, par exemple? C'est vraiment... Ça n'est jamais arrivé auparavant. C'est vraiment le premier jeu qui a fait pleurer. Il y a notre amie aussi, Isabelle Gauthier, qui, elle, dit que c'est Ori and the Blind Forest, l'introduction, le jeté à terre. Mélanie Gravel, de son côté, c'est Mass Effect au complet. Là, en passant, là, je pense qu'il va y avoir quelques spoilers, quelques divulgateurs dans ces commentaires-là. J'en suis désolé, mais écoutez, à un moment donné, là, je veux dire, à moins de citer un jeu qui vient de sortir, là, je suis désolé. Quand Mordain meurt, elle était inconsolable. Pierre-Luc Dubois, ça fait nom de duo, genre Angèle Dubois et Claude Dubois font un album ensemble. J'aimerais entendre cet album-là, sérieusement. Lui, c'est un classique, Final Fantasy VI. Il a été touché notamment par la scène d'opéra avec Céleste, en effet. Et bien sûr, il y a l'histoire de Terra, là, ce mutant, entre guillemets, qui est très touchante, ma foi. Et Michael Gagnon, qui lui, opte pour AI de Somnium Files, l'a fait pleurer à plusieurs reprises. C'est un chef-d'œuvre, alors on vous le recommande. Et Jules Fortin, il va du jeu des jeux, et qu'on a en commun d'ailleurs, de Last of Us, probablement le meilleur scénario des jeux vidéo. Le seul jeu vidéo que j'ai fait 6 fois et il a bien hâte au deuxième. En parlant de Last of Us Part 2, je vous donne un petit avant-goût parce que si vous êtes dans la région métropolitaine à Montréal et que vous êtes des adeptes des transports en commun, je vous invite à ramasser votre journal 24 heures de demain car dans le cadre de notre chronique 24 heures sur Start, on a parlé avec la geek en chef, avec Catherine Brunet. C'est... Les gens ne le savent pas toujours, mais elle a doublé bon nombre de films en français de super-héros, que ce soit The Incredibles 2, elle fait Violette Parr, elle a joué aussi dans les Hunger Games, ben, elle a pas joué mais elle a prêté sa voix à The Hunger Games, aussi le film Teen Titans et bien sûr Rey de la saga Star Wars, et c'est aussi une grande joueuse de jeux vidéo. Elle nous mentionne justement dans cette entrevue-là qu'elle a très très hâte à The Last of Us Part 2. Je vous dis pas le reste, je vous invite à le lire dans le journal 24 heures ou sur notre site web. On va passer maintenant aux gens de Twitch, qu'est-ce qu'on nous a rapporté. Il y a Annie on Fire 666 qui nous dit qu'elle a beaucoup aimé le jeu Life is Strange qui l'a ému. Et il y a Claire Aclette, encore elle, qui nous dit qu'elle, un jeu qui l'a incroyablement touché, c'est The Last Guardian. La fin est super belle. Annie on Fire en rajoute en disant qu'elle aime aussi Ori. C'est un jeu qui l'a incroyablement touché. Là-dessus, je vais y aller avec mon top 3. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de To The Moon, qui est sorti en 2011, puis en 2014 sur version mobile. C'est un jeu indépendant qui a été développé avec RPG Maker. Faut le faire, là, quand même. C'est un petit programme qui est pas mal disponible pour monsieur, madame, tout le monde, et qui s'est rendu loin parce que le jeu est maintenant disponible sur Linux, OS X, Windows, Nintendo Switch, iOS et Android. Même si ça a été fait sur RPG Maker, il est plus question d'une espèce d'un roman visuel ou d'un point and click. Vraiment, les gens qui n'aiment pas ce jeu-là dénoncent justement le fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. T'embarques sur un wagon et tu suis cette intrigue. Mais ma foi, cette intrigue, elle est magnifique. Là. Vraiment, je vais vous résumer ça. Là. Voici la trame narrative avec ma voix de bande-annonce. Les docteurs Eva Rosaline et Neil Watts, qui travaillent pour la société Sigmund Corp, ont un travail très particulier. Bon, okay. Ils sont chargés de s'introduire dans l'esprit de leur passion pour réaliser leur rêve. C'est comme un peu une rencontre entre Inception et la fondation Rêve d'enfant. En remontant progressivement leurs souvenirs, ils découvrent petit à petit la vie de leur passion et la raison pour laquelle il a émis ce souhait. Après être entrés dans leur enfance, les docteurs peuvent alors injecter le souhait du patient qui le motivera ainsi toute sa vie afin de le pousser à réaliser son rêve artificiellement. Étant donné la nature lourde de l'opération, qui peut entraîner de graves lésions au cerveau dues au conflit de souvenirs entre les vrais et les artificiels, elle n'est effectuée que sur les patients, que sur leur lit de mort, à qui il ne reste que très peu de temps à vivre et qui n'ont jamais pu réaliser leurs rêves. To the Moon raconte la vie de Johnny qui rêve d'aller sur la Lune. Cependant, il ne sait pas lui-même pourquoi il veut y aller. Au fur et à mesure que les docteurs s'enfoncent dans les souvenirs de la vie mouvementée de Johnny, il découvre ses secrets, comme sa mystérieuse et défunte femme River, ainsi que la raison pour laquelle il veut réellement aller sur la Lune. La fin est incroyablement émouvante. Sérieusement, même sans avoir joué au jeu, là, quand on a une idée de la prémisse, je vous invite d'aller sur YouTube et YouTuber To the Moon Ending.
Recherchez,
merci. Fureté. La musique est émouvante. On comprend très vite ce qui se passe. Mine de rien, je me prépare un minimum pour ce balado et j'ai réécouté la fin tantôt et vraiment, j'avais les larmes aux yeux. Encore une fois, c'est incroyable. To the Moon. Un jeu RPG Maker. Fait qu'on s'entend que c'est vraiment une qualité subpar. Maintenant, c'est pas un jeu triple A et pourtant, ça vient vous chercher juste là. Puis pour les gens qui écoutent juste la version audio, là, je me tape sur la poitrine. Très ample. Elle aurait pu être plus musclée, mais j'ai slacké sur le gym, comme je vous disais en début d'épisode. Deuxième, dans mon top 2, j'imagine que j'oublie plein de jeux émouvants auxquels j'ai joué. Il faut dire que je suis très facile à faire pleurer, là. En tout cas, bref. Deuxième jeu dans mon top 3, c'est Final Fantasy 2, si vous êtes en Amérique du Nord, ou Final Fantasy 4, si vous êtes du Japon. Le personnage de Edward, qui est un barde un peu peureux et endeuillé, qui, lors d'une scène décisive, doit se remettre de son deuil et aussi... combattre pour finalement aider ses compatriotes. Et c'est là que, tu sais, on débloque un peu, tu sais, parce que tout le long, t'es comme, je le veux pas dans mon party. Finalement, il est vraiment chétif. Puis c'est là qu'on débloque un pouvoir. Il demeure vraiment minable, mais j'ai tellement été touché par son histoire, là, d'endeuillé qui a perdu sa fiancée, puis que finalement, le fantôme de la fiancée revient, puis comme genre, l'inspirer à comme, non, fais ta vie, puis combat, là. À l'époque, je l'ai monté jusqu'au niveau 99, ce qui est le summum. Il est encore très poche. C'est un peu plate. C'est comme genre, si tu faisais Rocky IV, là, le montage là, de la scène sportive, parce que vous voyez Rocky là, le combattre les éléments pour s'entraîner là, face à Drago qui lui utilise les dernières technologies et un peu de stéroïdes. The secret ingredient is crime. Et là, t'arrives au combat et... et Rocky se fait péter à gueule pareil parce qu'on est niveau 99, il est pas capable de supplanter Drago. En tout cas, bref, c'est vraiment un long détail. Et en position numéro 1, t'as tout un... Eh bien, c'est The Last of Us, évidemment. J'en ai déjà parlé, je pense, à deux reprises ici. Je suis une mémère, finalement. Vraiment, ça m'a marqué plus que je pensais. Faut que j'en parle avec ma psychologue. La scène vers la fin dans l'hôpital, où est-ce qu'on a le choix entre... Pour les gens qui ont jamais joué, je vous invite à muter ça, là, parce qu'à un moment donné, là, ça fait des années que c'est sorti, le 2 s'en vient, là. Faites-vous à l'idée. Alors, à un moment donné, c'est ça. Pour résumer l'intrigue, finalement, on accompagne tout le long du jeu une jeune fille qui s'appelle Ellie, qui aurait en elle, dans son corps de jeune fille, le remède pour enrayer une infection zombiesque, là. OK, parce qu'elle a été mordue et finalement n'a pas été infectée. Et on l'amène à une espèce d'hôpital où est-ce qu'on apprend finalement notre protagoniste qui s'appelle Joel. Ce qui est quand même rare, tu sais, il s'appelle pas Jack ou Johnny, il s'appelle Joel. Je suis pas capable de dire Joel. C'est Joel? Ah, mon Dieu, c'était vraiment n'importe quoi. Où est-ce qu'on apprend que, ah ouais, ben écoutez, tu sais, Joseph, pour isoler ça, là, pour sauver le monde, ben il faut que Ellie meure. Et Joel, qui est un père endeuillé, hein, vraiment, le jeu commence avec le décès de sa fille, qui a comme adopté finalement Ellie, là, tu sais, sans que ce soit officiel. Je veux dire, ils ont pas arrêté comme pendant la fin du monde pour signer des papiers, là, mais on s'entend que, tu sais, il y a un lien établi, qui décide comme, fuck the world, je sauve ma fille adoptive. Et c'est ça, vraiment, hey, mon Dieu, j'y repense, puis c'est comme, pfff. Puis là, c'est ça, fait que là, ça s'ensuit une course dans l'hôpital avec, genre, le groupe de la milice qui te court après comme dans, reviens ici avec la petite fille, t'es comme non. Et puis c'est ça, finalement, choisir entre le monde et notre enfant, on choisit notre enfant, c'est plate et je suis pas mal sûr qu'à 90% du temps ça arrive. Alors c'était le top 3 de mes jeux qui m'ont fait pleurer. Vous, de votre côté sur Twitch, vous m'avez dit, une texteur qui me dit To the Moon est effectivement un bon choix. Aussi, on nous recommande le jeu A Bird Story, un autre jeu à émotion que Texter nous propose. C'est Papi Io, c'est qui fait à propos d'une relation avec un père alcoolique et abusif. Yish, c'est pas très ska, ça, comme jeu, hein. Philippe, toi, qu'est-ce qui t'émeut dans la vie?
Moi, j'y pensais pendant que tu racontais tes top 3. J'ai un top 3 de moi-même, en plus. Je vais pas aller en détail comme toi, tu as été, mais moi, je dirais mon top 3, numéro 3, ça serait Undertale.
Ouh!
Undertale,
la musique est tellement bonne.
La musique est vraiment, vraiment très, très bonne. Il y a un moment émotif où est-ce que si tu décides de faire, comment t'appelles ça, le run où est-ce que tu tues tout le monde, là?
Oui.
Ben, il y a un moment où est-ce que faut que tu tues ta mère.
Ouch!
Ouais, ça c'est quand même assez intense. Moi aussi, je décide de prendre des jeux, bien sûr, qui sont released. Ça fait un bout parce que on veut pas faire trop de divulgateurs.
Merci.
Numéro 2, je dirais, ce serait probablement What Remains of Edith Finch.
Oh, bon choix, bon choix.
La fin, bien sûr, c'est un autre, un peu comme, bon, c'est un first person, mais c'est un jeu semblable à To the Moon, où tu fais juste passer à travers l'histoire, il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est juste, l'histoire est racontée à toi, à travers les yeux de, du personnage.
Oui.
Et la fin est très, très, très émouvante. Et mon top, mon numéro 1, je dirais, ce serait probablement la fin de le premier épisode de Walking Dead.
Oh, toi aussi!
Ouais.
Ah, bien joué, mon
ami. Ouais. Allez. Ça, c'était... J'avais des larmes aux yeux pendant genre 5 minutes, juste en regardant. Je te jure.
Tabarnouche! Toi, puis Baptiste, OK, je vais m'y mettre.
C'était vraiment intense. C'est vraiment quelque chose.
Ben, tabarnouche. Écoutez, moi, je suis content vraiment. Je retire de cet épisode-là plein de suggestions de jeux émouvantes et j'en suis touché. Merci beaucoup, groupe. Et on va passer sur ces bons mots à notre mot de la fin, justement. Ben, cet épisode en solo de Pince sur Start a été animé par moi-même, André Péloquin. Revenez-nous la semaine prochaine, s'il vous plaît. Christine Lemousse va être là, ça va être beaucoup plus le fun. Et j'ai été accompagné au micro et à la réalisation par Philippe Séguin. Philippe, merci beaucoup, sincèrement, très apprécié.
De rien.
Si vous écoutez la version audio, je vous le répète, encore une fois, je suis désolé, mais il faut que le message rentre. On enregistre en direct avec vous tous les mercredis vers 18h30. Joignez-vous à nous parce qu'on veut un podcast interactif, on veut que ce soit un podcast pour vous et pour nous aussi. Alors, aidez-nous à le rendre meilleur. En parlant justement de performance, ça fait un petit bail qu'on n'a pas eu d'évaluation sur boutique iTunes et compagnie et de petites étoiles. Alors, on vous invite à le faire et je vous dis pas comme mettez 5 étoiles puis dites c'était la meilleure shit au monde. On veut vraiment des évaluations sincères et pour, qui sait, vous encourager à le faire. On va y aller à chaque semaine puis les évaluations qu'on va trouver les plus intéressantes vont être discutées ou les plus drôles vont être lues au micro. On est sur le twitch.tv/pèse sur start. Et côté audio, on est évidemment sur la plateforme Cube. C'est une production Cube, après tout. On est aussi sur Apple, Spotify, Stitcher, Balado Québec, je crois aussi, et j'en passe. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. En plus de notre site, le pèse sur start.com, on est sur Instagram, cherchez-nous. On est aussi sur Twitter, si vous l'utilisez toujours. On a aussi un canal Discord et nous sommes sur Facebook, évidemment. On est aussi disponible en papier à chaque mois. On a une chronique qui s'appelle Game Balloon dans le magazine Cool. Et comme je vous disais tantôt, on a aussi à chaque semaine une page dans le journal 24 heures. C'est la chronique Pèse sur Start. Et dès maintenant, si vous écoutez la version audio, cette page est consacrée à Catherine Brunet. Pour nous rejoindre, évidemment, les réseaux sociaux ainsi que ce courriel info@pèsesurstart.com. Encore une fois, je m'appelle André Péloquin et merci à vous d'avoir été avec moi pour cet épisode en solo. Je me suis senti beaucoup moins seul et je pensais que vraiment, ça serait un épisode de 15 minutes. Mais finalement, on s'est quand même amusé. Et en tout cas, moi, je sais pas pour vous, mais j'ai appris plein de choses. Toi, Philippe?
Absolument.
Puis je crois que nos liens se sont resserrés aussi.
Oui, je crois moi aussi.
Ah, je suis content. Ça finit bien. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine, tout le monde.